Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Madame à Paname, le podcast pour apprendre le français et découvrir la culture française. Je m'appelle Marion, j'habite à Paname et Paname, c'est le nom qu'on donne à la ville de Paris. Retrouvez la transcription de l'épisode, la fiche de vocabulaire expliquée, le quiz et toutes les activités dans l'abonnement premium du podcast disponible sur mon site www.madameapaname.com. La semaine dernière, je vous ai raconté le début d'une histoire. Vous vous souvenez ? Celle de Marie Curie. Oui, Marie Curie. Cette femme célèbre dans le monde entier pour ses découvertes scientifiques extraordinaires, pour son rôle dans l'augmentation de la visibilité des femmes dans le monde scientifique et intellectuel des 19 et 20e siècles. Alors, faisons un petit résumé pour bien se rafraîchir la mémoire. Je vous recommande, bien sûr, d'écouter la partie 1 avant d'écouter cette deuxième partie de l'histoire. Dans l'épisode précédent, je vous racontais donc la destinée incroyable de cette jeune fille polonaise arrivée en France à l'université de la Sorbonne à l'âge de 24 ans avec de très grandes ambitions. Marie Curie est une élève brillante depuis toujours et elle réussit tout ce qu'elle entreprend dans ses études, malgré les difficultés. Puis, avant de rentrer en Pologne, elle rencontre Pierre Curie, un scientifique brillant lui aussi qui devient son mari. Elle décide donc de rester en France et, ensemble, Pierre et Marie Curie découvrent la radioactivité ainsi que deux nouveaux éléments chimiques, le polonium et le radium. Pour ces découvertes, ils reçoivent un prix Nobel, ce qui les rend célèbres dans le monde entier et leur donne de nouvelles possibilités, notamment grâce à un laboratoire que la Sorbonne met à leur disposition. Pierre et Marie Curie ont deux enfants, deux filles. Mais en 1906, Pierre Curie meurt tragiquement et brusquement d'un accident de la route, ce qui plonge la famille Curie dans un immense désespoir. Mais Marie Curie finit par reprendre le travail et la place de son mari à la Sorbonne. Puis, elle commence une liaison avec un homme, un de ses amis, Paul Langevin. Malheureusement, Paul Langevin est déjà marié et la presse apprend cette relation. Et, comme on l'a vu la semaine dernière, c'est un énorme scandale. Et Marie Curie est très affectée. C'est une période très difficile pour elle. Et pourtant, la même année, en 1911, c'est une nouvelle consécration, un nouveau triomphe scientifique pour Marie Curie. Elle reçoit un deuxième prix Nobel. Rappelez-vous, elle avait reçu le prix Nobel de physique avec son mari, Pierre Curie, quelques années auparavant. Et en 1911, elle reçoit le prix Nobel de chimie, toute seule. C'est du jamais vu. Jamais personne, homme ou femme, n'avait obtenu deux prix Nobel dans deux disciplines différentes. Marie Curie réussit cet exploit. Oui. Et cela en plein milieu d'un énorme scandale. Alors, le prix Nobel, on pourra en parler dans un prochain épisode, c'est une distinction. C'est le prix international le plus prestigieux, le plus reconnu au monde. Il récompense des travaux en physique, en médecine, en économie, en chimie, en littérature aussi, et il y a aussi le prix Nobel de la paix. Mais revenons à notre histoire. Bon, est-ce qu'on va finalement laisser tranquille Marie Curie, arrêter de lui mettre des bâtons dans les roues, c'est-à-dire arrêter de lui créer des difficultés, car elle a prouvé qu'elle est légitime dans ce qu'elle fait. Alors, ce nouveau prix Nobel lui ouvre de nouvelles portes, lui donne de nouvelles opportunités. Grâce à cela, la Sorbonne crée le premier institut du radium, c'est-à-dire qu'un grand laboratoire est créé spécialement pour les recherches basées sur les travaux de Marie Curie. Une partie est spécialement dédiée à la recherche sur la radioactivité et dirigée par Marie Curie elle-même. Et l'autre partie est consacrée à la recherche sur le traitement du cancer. Oui, la radioactivité sert à mettre au point la radiothérapie qui détruit les cellules cancéreuses. La violente polémique autour de sa relation avec Paul Langevin se calme peu à peu. Mais le couple ne résiste pas à cela. Ils se séparent. Ils restent cependant très amis et Marie Curie reprend ses recherches sur le radium. Enfin, sa vie semble toujours très difficile, hein. Elle a été très affectée par cet épisode, par le scandale. Et puis, il y a autre chose. Elle est malade, très malade. Peu après avoir reçu son deuxième prix Nobel, elle doit être opérée des reins. Les reins, ce sont des organes dans le corps humain. Et c'est le début d'un long combat pour elle. Bon, en réalité, ça fait déjà quelques années qu'elle souffre, notamment d'une intense fatigue. Son mari, Pierre, souffrait lui aussi de cette grande fatigue. Et ce n'est pas simplement qu'il travaillait beaucoup, hein, c'est plus que cela. Aujourd'hui, on le sait, être exposé à des substances radioactives est très, très dangereux. Mais à l'époque, on ne le savait pas. Alors, imaginez, Marie et Pierre Curie en ont manipulé pendant des années, sans aucune protection. Ce n'était que les débuts de la radioactivité. Ils ne connaissaient pas encore les risques et les dangers de l'uranium, du radium et du polonium. En plus de cela, les ennuis, les problèmes continuent. Nous sommes maintenant en 1914. La Première Guerre mondiale éclate. Marie est très inquiète pour sa famille en Pologne. Elle vit très mal la situation. Alors, elle se demande comment elle va pouvoir aider. Elle veut s'engager. Elle veut faire quelque chose pour participer et aider à sa façon. Elle se rend alors compte que les rayons X pourraient aider à soigner les soldats. Marie Curie n'a pas étudié les rayons X autant que le polonium ou le radium, mais elle connaît quand même bien le sujet. Elle a même donné des cours à ce sujet à la Sorbonne. Pendant la Première Guerre mondiale, de nombreux soldats meurent de leurs blessures parce que les médecins ne savent pas précisément où chercher les éclats d'obus, les petits morceaux de balles, les projectiles dans le corps pour pouvoir les enlever. Les médecins sont donc obligés d'ouvrir les patients sans être sûrs d'ouvrir au bon endroit. Bon, vous imaginez, beaucoup de soldats meurent, inévitablement. Alors, Marie Curie le sait, avec les rayons X et la radiologie, les médecins pourraient avoir une vision précise de l'intérieur des corps des soldats blessés et donc savoir exactement où ils doivent opérer. Au début de la Première Guerre mondiale, seulement une centaine de médecins sont formés à la radiologie en France. Alors, Marie Curie décide de mettre en place, d'organiser des unités de radiologie mobile. C'est-à-dire qu'elle fait installer des appareils de radiographie mobile transportables dans de petits camions. Elle fait aussi équiper les salles des hôpitaux de toute la France pour radiographier, faire des radios des corps des blessés pour savoir où le médecin doit opérer. Et c'est brillant! Une fois que le matériel est prêt, les voitures, les petits camions, peuvent partir vers les champs de bataille et permettre de soigner les soldats blessés le plus rapidement possible. Alors, il y a 20 voitures qui parcourent la France et la Belgique pour aider à soigner les soldats. Dans la voiture, il y a un chauffeur, évidemment, un médecin et un manipulateur radio. En fait, c'est le concept de l'ambulance, largement utilisé dans le monde entier aujourd'hui, qu'elle développe. Bon, au début, beaucoup de médecins que Marie Curie rencontre lors de ses visites dans les hôpitaux ont déjà entendu parler de la radiographie, mais ils ne sont pas vraiment convaincus. Il faut toujours lutter, expliquer, convaincre. Alors, elle leur prouve, une fois de plus, que c'est un outil extraordinaire en sauvant de nombreux hommes. Et face à l'évidence, les médecins sont bien obligés de se rendre compte de l'utilité de la radiographie. Voilà, sachez que ça n'a pas été facile. Dans les hôpitaux où passe Marie Curie, le nombre de décès, le nombre de morts diminue largement. Oui, la radiographie sauve des vies. C'est indéniable, c'est incontestable. On ne peut pas dire le contraire. Alors, rapidement, Irène Curie, la fille de Marie Curie qui a alors 17 ans, est impressionnée par le travail de sa mère et souhaite participer. Elle veut aider, elle aussi. Elle veut suivre sa mère. Irène est elle aussi passionnée par la physique. Et elle aussi est brillante, sa mère le sait. Alors c'est entendu, Marie Curie emmène sa fille aînée avec elle dans les voitures radiologiques. Elle la forme et, petit à petit, Irène part seule dans les hôpitaux. Elle se charge elle-même de former le personnel, les médecins et les infirmiers à la radiographie. Marie Curie a une entière confiance en elle. Elle a autant confiance en sa fille qu'elle a confiance en elle-même. Mais encore une fois, imaginez, on est au début du XXe siècle, une jeune fille de 17 ou 18 ans qui arrive seule dans un hôpital et explique au médecin ce qu'il doit faire. Même si c'est pour sauver des vies, c'est compliqué. Et tout ce sexisme ralentit les progrès scientifiques depuis le début. Il faut qu'Irène soit brillante pour se faire accepter. Et brillante, elle l'est, comme ses parents, comme sa mère. Alors, elle finit par prouver sa légitimité, par se faire accepter et on finit par l'écouter et faire ce qu'elle dit. Et petit à petit, les hôpitaux réclament, demandent les services de Marie et Irène Curie. Et les deux femmes participent à sauver de très nombreuses vies. Puis, la guerre se termine en 1918. Marie Curie retourne à ses recherches dans son nouveau laboratoire de l'Institut du Radium. D'ailleurs, Irène, sa fille, travaille avec elle. Le laboratoire de Marie Curie rencontre un grand succès. De nombreux chercheurs veulent en faire partie et travailler avec Marie et Irène Curie. Elles sont très célèbres et très reconnues dans le monde scientifique. Les chercheurs étrangers aussi sont très intéressés par un poste dans le laboratoire prestigieux de l'Institut du Radium à Paris. Alors, cet institut aujourd'hui s'appelle l'Institut Curie. Il existe encore et il se trouve rue Pierre et Marie Curie, dans le centre de Paris. Donc, Marie Curie accepte les chercheurs étrangers avec un immense plaisir. Rappelez-vous, elle cherche toujours à diffuser son savoir et ses découvertes de la manière la plus large possible et elle sait très bien que les scientifiques étrangers peuvent beaucoup apporter à la France et réciproquement. Au total, des chercheurs de 25 nationalités différentes passent par le laboratoire de Marie Curie. C'est énorme. Replaçons-nous dans le contexte. Grâce à elle, ils apprennent à utiliser la radioactivité et peuvent par la suite continuer et approfondir les recherches de Marie Curie. C'est l'objectif. Et parmi ces chercheurs arrive en 1925 un certain Frédéric Joliot. Irène Curie et lui s'entendent très bien. Ils travaillent souvent ensemble et ils tombent amoureux, puis se marient. Irène Curie devient donc Irène Joliot-Curie, et c'est sous ce nom qu'elle est encore très célèbre aujourd'hui. Irène et Frédéric Joliot-Curie font de nombreuses découvertes à partir des recherches de Pierre et Marie Curie, et on pourrait encore faire un épisode entier sur leur histoire. Ce ne sera pas pour aujourd'hui, car on se concentre ici sur Marie Curie. Marie Curie continue donc à participer aux recherches, à former les chercheurs, à leur faire découvrir la radioactivité, à les aider dans l'écriture de leur thèse, et elle est très heureuse de voir tout ce monde dans son laboratoire, toutes ces personnes dévouées au projet de sa vie. Elle est aussi très fière des découvertes et des victoires de chacun, particulièrement celles de sa fille Irène et de son beau-fils Frédéric Joliot. Mais elle est toujours très malade. Depuis son opération des reins en 1912, les choses ne s'arrangent pas vraiment. Elle a toujours des crises de douleur très violentes et elle commence à avoir des problèmes aux yeux. De nouveau, elle doit se faire opérer, plusieurs fois. Elle reste de longs mois privée de ses recherches. Elle doit rester chez elle, les yeux bandés, sans voir. Alors, ses filles sont très présentes pour elle et elles l'aident beaucoup. Irène s'occupe du laboratoire et des recherches et Ève, de son côté, est avec sa mère à la maison. Elle l'aide énormément dans la vie quotidienne. Marie Curie est toujours très proche de ses filles. Elle l'a toujours été. Elle les a toujours adorées, admirées. Dans les années 1930, la santé de Marie Curie se dégrade, devient mauvaise de plus en plus rapidement. En 1934, le diagnostic tombe. Elle a une leucémie, un cancer du sang. Alors, même si on n'a aucune certitude à ce sujet, beaucoup disent aujourd'hui que cette leucémie a très probablement été causée par les radiations dues à l'exposition à la radioactivité de manière répétée pendant des années. Marie Curie sait qu'il lui reste peu de temps. Elle sait qu'elle va bientôt mourir. Alors, elle profite au maximum de sa famille et de ses amis. Finalement, elle doit rapidement être admise dans un sanatorium dans les Alpes, une sorte d'hôpital pour essayer de soulager les symptômes liés à la leucémie. Mais elle meurt peu de temps après y être entrée, le 4 juillet 1934, à l'âge de 66 ans. Dans un premier temps, elle est enterrée dans un cimetière de la région parisienne, à Sceaux, à côté de son mari, Pierre. Puis, en 1995, le président de la République française de l'époque, François Mitterrand, décide de faire entrer Pierre Curie et Marie Curie au Panthéon, en reconnaissance de leurs grands services rendus à la science et de leurs mérites. Alors, le Panthéon. On va faire un épisode à ce sujet. C'est vraiment quelque chose que vous devez connaître si vous aimez la culture française et c'est vraiment un monument que je vous conseille de visiter si vous êtes ou si vous allez à Paris. Expliqué simplement, c'est un lieu où sont enterrées de grandes personnalités qui ont marqué notre histoire en France. On en avait déjà un peu parlé dans l'épisode sur Joséphine Baker, une femme extraordinaire qui est aussi entrée au Panthéon en 2021. Je vous mets le lien dans la description de cet épisode si vous souhaitez écouter ou réécouter l'épisode sur Joséphine Baker. Donc, entrer au Panthéon est un immense honneur. Le Panthéon est réservé aux personnes illustres et, au vu de leurs travaux et de leurs découvertes révolutionnaires, on comprend bien que Pierre et Marie Curie aient eu ce privilège. Et qu'en est-il de leur fille? Eh bien, Ève Curie n'est pas une scientifique. Elle ne partage pas la passion de ses parents et de sa sœur. Elle se rêve pianiste, puis journaliste. Après la mort de sa mère, elle écrit un magnifique livre, Madame Curie. C'est la première biographie de Marie Curie. Vous pouvez la lire. Ce livre est un énorme succès. C'est un best-seller aux États-Unis dès sa sortie en 1937, puis également en France à sa sortie l'année suivante. Oui, la biographie de Marie Curie est d'abord publiée aux États-Unis, puis en France après. Quant à Irène Joliot-Curie, après la mort de sa mère, elle continue à briller dans le domaine scientifique. Elle finit même par diriger elle-même le laboratoire de l'Institut du Radium et, en 1935, elle obtient, avec son mari Frédéric Joliot, le prix Nobel de physique. Oui, comme ses parents, comme Pierre et Marie Curie plus de 30 ans auparavant. Irène et Frédéric Joliot-Curie obtiennent le prix Nobel pour avoir découvert qu'il est possible de créer artificiellement des éléments radioactifs en laboratoire. Bon, après eux, on peut encore citer leurs enfants, Hélène et Pierre Joliot. Tous les deux sont aussi de grands scientifiques, comme leurs parents et leurs grands-parents. C'est une dynastie de scientifiques. Et d'ailleurs, anecdote amusante à propos d'Hélène Joliot, la petite fille de Marie Curie. Vous vous souvenez de Paul Langevin, l'amant de Marie Curie au début des années 1910? Eh bien, sachez que deux générations plus tard, Hélène, la petite fille de Marie Curie, a épousé Michel Langevin, le petit-fils de Paul Langevin. C'est fou! Aujourd'hui, c'était la deuxième partie d'un épisode important et je vous recommande vraiment de télécharger la transcription et la fiche de vocabulaire si ce n'est pas déjà fait, pour être sûr de bien tout comprendre. Et n'hésitez pas à écouter l'épisode plusieurs fois. Pour les membres de l'abonnement Podcast Premium, c'est le moment de faire le quiz sur cet épisode. À tous, à vous qui m'écoutez, merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Il a demandé énormément de travail de recherche et d'écriture. Merci à Sarah Bontemps, avec qui je travaille et qui en est à l'origine, et qui propose ici un épisode exceptionnel. Si cet épisode vous a plu, laissez des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permet de soutenir et faire connaître le podcast de Madame à Paname. J'espère que vous avez été aussi intéressés que nous par l'histoire de Marie Curie, cette femme qui a laissé un immense héritage scientifique dans notre monde. On se souviendra aussi d'elle comme d'une grande dame qui a permis au monde entier de faire évoluer les mentalités, de faire avancer, non sans difficulté, la cause des femmes, l'égalité des genres, et de faire comprendre que les femmes peuvent exceller dans des domaines traditionnellement dominés par des hommes. Elle a été une grande figure féministe, convaincue que les femmes et les hommes doivent absolument avoir les mêmes droits, les mêmes chances et les mêmes opportunités. Marie Curie continue aujourd'hui d'être une grande source d'inspiration pour nous toutes et nous tous.